Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité de l'UM, l'Université de Montpellier, et de ses partenaires. Depuis le 19e siècle, la figure du maire s'est imposée en France comme la grande personnalité publique. C'est Monsieur de Rênal dans Le Rouge et le Noir, c'est Jean Valjean devenu Monsieur Madeleine, c'est Fabrice Luchini dans Alice et le maire, ou Clovis Cornouillac dans le film Monsieur le maire, sorti l'année dernière. Plus petit échelon de la démocratie représentative, le ou la maire est à la fois celui ou celle qui fait appliquer les règles de la République, celui ou celle qui vous marie, qui signe l'autorisation de construire votre maison ou d'inhumer un proche, celui ou celle qui inaugure la cantine ou le city-stade, qui siège au conseil de surveillance de l'hôpital ou qui garantit la sécurité publique. Être maire, même dans une métropole comme Montpellier, c'est être celui qui continue d'aller au travail en vélo, cravate et cheveux au vent. Dans une petite commune, être maire, en plus d'une vie sur le terrain, c'est apprendre à composer avec des coups de fil au domicile de jour comme de nuit. Allô, madame le maire, je suis désolée de vous déranger, mais notre voisin est parti depuis 2 jours, il a laissé son chien sur le balcon. La pauvre bête ne fait que hurler, on ne sait pas quoi faire. Allô, monsieur le maire? Oui, c'est le nouveau généraliste. Bon, ça va pas du tout. Dans les clauses d'installation, j'avais demandé un mur bleu dans mon cabinet, et là, le mur est vert. Allô, monsieur le maire? Désolé de vous réveiller en pleine nuit, mais il y a eu un accident route de l'avenir. C'est 2 gamines en trottinette. Oui, c'est grave, monsieur le maire, faut venir. Bref, être maire, c'est une fonction de proximité, pour ne pas dire d'intimité, qu'il faut assumer 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, sans week-end, avec peu de vacances et bien souvent peu de reconnaissance. Mais cette disponibilité à toute épreuve est-elle sans conséquence sur la santé mentale et le bien-être des 34 893 maires de France? Eh bien, sachez que nos invités sont les premiers et les seuls à s'être intéressés à cette question. Ils co-signent un rapport intitulé « Du risque de burn-out au bien-être des maires, sortir de l'ignorance ». Olivier Thorez et Mathieu Lemoyle, bonjour.
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 Alors, vous êtes tous les deux chercheurs à l'Observatoire à Maroc, c'est bien ça?
Donc, oui.
Vous êtes connus jusque-là pour avoir beaucoup travaillé sur la santé des chefs d'entreprise et vous revenez cette fois avec cette étude très originale que nous allons détailler pendant les 20 prochaines minutes. Merci à vous d'être ici. Elle m'a confié en préparant cette émission que sur les mères, qu'elle avait oublié l'anniversaire de sa mère. L'indigne Aline Perriot est à mes côtés pour animer cette émission.
Bonjour, maman, si tu nous écoutes. Voilà, joyeux anniversaire.
Je t'ai tendu une perche.
Merci.
En deuxième partie d'émission, notre reportage nous emmène au pôle chimie Ballard pour visiter la salle d'analyse élémentaire du laboratoire de mesures physiques. Enfin, notre invité de dernière minute persiste et signe, puisqu'il s'agit encore une fois de Thomas Pichéry, chargé de communication à la culture scientifique. Il nous présente un bar des sciences hors série, ou plutôt un bar des sciences hors saison, un bar des sciences d'automne, du jamais vu. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, vous dites que la santé des mères est un sujet totalement ignoré. Olivier Thorez, est-ce que vous savez pourquoi, d'où elle vient cette lacune? On n'a pas voulu s'y intéresser ou on n'y a pas pensé?
Tout simplement parce que les premiers concernés sont muets par rapport à leurs conditions. Vous savez, la phrase que j'ai le plus souvent entendue, c'est chez les mères, « j'ai pas le temps d'être malade » ou parfois « j'ai pas le droit d'être malade ». Et qu'on soit homme ou femme, quand on a la fonction du premier magistrat de la commune, eh bien on a tendance à s'oublier complètement. Alors du coup, effectivement, on a peu de travaux, à l'exception des Anglais, Weinberg et Cooper, en 1999, qui s'étaient intéressés au stress des députés britanniques de la Chambre des communes.
D'accord, donc c'est vraiment une étude inédite.
En effet, oui.
Alors, cette étude inédite, vous l'avez menée en 2 temps, une première entre février et mars 2024 auprès de 1120 maires et une seconde entre juin et juillet 2024 auprès de 900 maires. Vous les avez rencontrés, ces maires? Vous avez procédé par questionnaire? Comment vous avez fait, Mathieu Lemoyle?
Alors, nous avons fait 2 questionnaires. Alors, avant les questionnaires, nous avons fait une petite enquête en direct auprès d'une dizaine de maires pour voir un petit peu quels étaient les différents points qui seraient intéressants à aborder chez eux. Et après, nous avons fait 2 enquêtes. Une pour établir avec les 1120 maires les différents verbatims, les différents mots qui peuvent être retrouvés chez les maires et qui sont impactants pour eux. Donc tout ce qui va être stressant et tout ce qui va être satisfaisant dans la vie d'un maire et dans la vie personnelle du maire. Et ensuite, nous avons effectué une deuxième enquête avec les 900 maires pour justement vérifier l'intensité et la fréquence de ces différents mots que nous avons catégorisés en 25 catégories pour les stresseurs et satisfacteurs de la vie de l'élu et les 9 catégories de la vie personnelle de chaque côté aussi. Et donc du coup, à travers ces différents points, nous avons pu constituer le stressomètre et le satisfactomètre.
On va y revenir justement plus en détail. Mais alors juste avant de rentrer dans ces détails, depuis une dizaine d'années, à l'approche de toutes les élections municipales, on y coupe pas, hein. Les journaux titrent toujours sur ces maires qui ne trouvent pas de remplaçants, sur la preuve que la fonction n'attirerait plus. Dans votre étude, vous vous êtes intéressé, donc, comme vous le dites, à la satisfaction des élus, et puis le résultat général, il colle pas en fait à cette impression
Il contraste avec l'opinion générale. 70% des maires des plus petites communes sont satisfaits, très satisfaits de leur fonction d'élu. Alors ça, c'était aussi un premier rapport d'étonnement, parce que nous, on y est allés sans parti pris. Et c'est bon aussi de le dire, et c'est très important. Je voudrais faire passer un message aux auditeurs. Quand on s'intéresse à la santé, et à la santé au travail, quelque part, ou d'une fonction, il faut aussi toujours s'intéresser aux facteurs positifs. Sinon, on a une vision, j'allais dire, borgne de la réalité. Si on ne voit que ceux qui stressent, on va donner l'impression que le travail est mortifère.
Alors justement, c'est cette satisfaction dont on a parlé, le satisfactomètre que vous avez créé, il hiérarchise 25 événements positifs de la vie d'un maire en fonction de l'intensité de satisfaction qu'il lui procure. Mathieu Lemoyle, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'événements qui sont présents sur cette échelle de satisfaction ?
Oui, alors l'événement le plus présent et le plus marquant, c'est le projet. Finalement, chez les maires, ce sont des hommes de projet. Ce sont des personnes qui ont envie eh bien, de faire des choses dans leur commune, qui ont des vies bien remplies finalement en tant que maire. Et c'est quelque chose qui va être important pour eux. Après, n'hésitez pas à m'aider, Olivier Torres, au niveau des différents satisfacteurs. Qu'est-ce que nous avons en premier ?
Le premier, c'est l'aboutissement d'un projet, vous venez de le dire. Voilà. Puis après, on a aussi la bonne entente au sein du conseil municipal. Ça, c'est un point extrêmement important qui satisfait beaucoup les maires et qui montre l'importance, je dirais, de la gouvernance. On n'est pas tout seul non plus quand on est maire, on est environné.
Et alors justement, on est environné au-delà de ces événements, de leur fonction. Il y a aussi des événements, des satisfactomètres qui relèvent de leur vie privée. Et vous évoquiez tout à l'heure un dôme protecteur avec ces satisfactomètres-là. C'est quels événements qui sont mis en avant ?
Ah ben c'est la famille. La famille est un protecteur. C'est pour ça qu'on parle avec Mathieu de dôme protecteur. C'est-à-dire que de savoir que ses enfants vont bien, une vie conjugale équilibrée, harmonieuse, d'avoir des parents encore quand ils en ont, qui sont en bonne santé, tout ça, ça les remplit de joie et ça les protège.
Et alors, à l'inverse, en bas du classement, ce qui apporte le moins de satisfaction, on trouve les vacances et les loisirs. Qu'est-ce que ça dit des mères que c'est un sacerdoce ?
Exactement. C'est un sacrifice. D'ailleurs, le mot sacerdoce et sacrifice qu'on utilise dans notre dossier de presse, c'est un rapport au sacré. Et je tiens à le dire, je suis très heureux d'être d'ailleurs à Divergence parce que c'est une radio qui est 100% sans pub. Donc il y a un côté quand même courageux dans leur démarche, il faut le dire et le saluer. Et oui, effectivement, on voit bien que la situation des maires n'est pas forcément toujours très simple. Et moi, ce qui m'a frappé, peut-être dans les satisfacteurs, c'est que leur santé passe en dernier. Donc, ils se sacrifient, mais parce qu'ils ont un sens de servir un sacré, mais un sacré qui n'est pas religieux, c'est la République. Voilà, ils servent à la République. Et donc ça les protège. Il ne peut pas y avoir de sacrifice personnel s'il n'y a pas de sacerdoce.
Alors, sur le même modèle, vous avez aussi conçu ce que vous avez appelé le stressomètre, avec 25 propositions à classer. Qu'est-ce qui apparaît le plus stressant pour les maires, Mathieu Lemoyle ?
Alors, ce qui apparaît le plus stressant, ça va être la lourdeur administrative qui est fortement présente chez les maires, qui va être fortement intense et fortement fréquente. Et c'est quelque chose qui est quand même assez marquant pour eux. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on ne pourrait s'y attendre, et on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est permanent et récurrent chez eux.
Alors, on a été surprise parce que dans les stressomètres, justement, par exemple, des événements de la vie personnelle comme le décès d'un proche, ça apparaît plus bas que ces éléments-là. Est-ce que ça ne vous a pas étonné, ça ?
C'est pas étonnant en soi. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de se focaliser sur la fonction d'élu. Alors, effectivement, on voit bien, le premier stresseur, c'est la lourdeur administrative. Le deuxième, d'ailleurs, je le rappelle, c'est le sentiment de manque de temps, la pression temporelle. Mais ceci explique cela. Et donc, c'est pas qu'il soit cynique, c'est qu'à un moment donné, le décès marque l'instant présent, mais après, c'est les fréquences. C'est quand même beaucoup plus rare de perdre quelqu'un de son entourage, alors que la lourdeur administrative, Mathieu Lemoy l'a dit, c'est permanent, c'est récurrent.
Vous avez parlé de lourdeur administrative, on peut peut-être dire un mot de la loi NOTRe, qui a quand même énormément modifié la fonction de maire, justement, notamment dans les territoires ruraux, avec les intercommunalités.
Vous avez raison, qui a un peu détricoté. Alors, il y avait une volonté de rationalisation, qu'on peut comprendre aussi. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où chaque Français doit prendre conscience de l'importance de faire des économies pour le pays. Mais on est passé de l'indépendance à l'interdépendance. On est passé de la commune à l'interco, intercommunalité. Et donc, effectivement, ça crée chez les maires un sentiment d'être parfois un peu moins acteur, un peu plus spectateur.
Alors, plus un maire est stressé, bien sûr, plus il risque de montrer des signes d'épuisement. Cet épuisement, vous l'avez mesuré à l'aide d'un outil qu'on appelle le BMS-10. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, Mathieu Lemoyle ?
Alors, le BMS-10, c'est un outil qui permet d'évaluer l'épuisement professionnel, surtout les risques d'épuisement professionnel, parce qu'on est en amont, finalement, de l'épuisement. Il va y avoir 10 items dedans qui vont permettre d'évaluer quels sont les points à travers, par exemple, la fatigue, à travers l'impuissance, à travers le fait de
la déception, le mauvais sommeil, la lassitude, le sentiment d'être coincé, faible, déprimé, désespéré ou encore en échec. Je les ai tous notés.
Exactement. Et donc, du coup, ces différents points vont être évalués de 1 à 7, le fait de pouvoir, de se sentir ou pas dans ces différents points. La totalité va faire qu'on va être plus ou moins en risque d'épuisement professionnel et avec un besoin d'être accompagné par la suite.
Alors cet épuisement, il n'est pas le même pour tous et il est significativement plus élevé chez les femmes élues. Est-ce que vous avez pu déterminer pourquoi ?
Ça c'est un sujet d'investigation qu'on continue à analyser. Vraisemblablement que la femme mère, elles sont un peu plus jeunes. Elles sont encore avec un engagement familial certainement plus conséquent que les hommes qui sont retraités, dont les enfants maintenant sont très grands. Et puis, cette conciliation vie pro, vie perso, vie publique, parce qu'ils ont trois vies, nos mères. 60% d'entre eux, je le rappelle, travaillent, en plus d'être mères. Il y a peut-être aussi, chez les femmes mères, on l'a eu dans les analyses qualitatives, ont le sentiment, comme toujours, de devoir en faire plus que les hommes. Alors, ça crée une pression interne qui peut conduire à un épuisement.
Et ça va être quelque chose d'ailleurs qu'on va essayer d'évaluer par la suite, parce qu'on a dans notre questionnaire parlé justement de tout ce qui est équilibre des domaines de vie à travers la segmentation, donc le fait de séparer les différents domaines de vie, ou alors l'intégration, le fait de pouvoir avoir les domaines de vie qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Et donc ça, on va voir qu'est-ce qu'ils préfèrent et ce qui va impacter ou pas la santé derrière, avec aussi le sentiment d'être équilibré dans ces domaines de vie. Est-ce que l'équilibre de la personne va lui convenir ?
Alors le troisième facteur d'épuisement, c'est l'isolement. De quoi on parle quand on parle de mère isolée ?
Alors nous, on a posé une seule simple question dans votre fonction de mère. Est-ce que vous vous sentez très entouré, plutôt entouré, neutre, plutôt isolé ou très isolé ? Et cette simple question est un déterminant très puissant du risque d'épuisement professionnel. Et vous avez compris que nous, on mesure moins le burn-out que le risque de burn-out. On est en mesure préventive, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que l'échelle de Pines est très utile, parce qu'elle mesure vraiment le premier stade du processus d'épuisement.
Et alors, vous parlez également d'un syndrome d'épuisement et de frustration. Cette frustration, elle est due à quoi et qu'est-ce qu'elle révèle du rapport entre les maires et l'État ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Ça, avec Mathieu aussi, ça nous a surpris. C'est le sentiment d'impuissance qui est anormalement élevé pour des dirigeants. Quand on s'est intéressé, comme on l'a fait chez les commerçants, artisans, agriculteurs, chefs d'entreprise en général, un chef d'entreprise, un dirigeant, il a le sentiment de maîtriser son destin, très fort. Là, les maires, le sentiment d'impuissance est très élevé, donc il est en position 3. Et ça montre qu'ils sont très engagés, mais parfois empêchés, ce qui crée cette frustration.
Est-ce qu'il y a un rapport au budget ? On en parle, on est en plein dedans en ce moment avec les cures d'austérité. On sent que les maires, là, ils commencent aussi à dire « Attendez, on ne va pas pouvoir non plus encore raboter sur nos budgets. » Ils en parlent de ça ou pas ?
Ah, exactement. C'est d'ailleurs un des stresseurs les plus élevés. Dire, oui. Et d'ailleurs...
Et un des satisfacteurs aussi les plus élevés, d'ailleurs, quand ça se passe bien.
Ah oui. Nos gouvernements nationaux devraient prendre appui sur les maires des communes parce qu'ils n'ont pas le droit de voter un budget en déséquilibre. Que ne le fait-on au niveau national depuis 40 ans ? Au niveau national, quand on voit, permettez-moi une remarque, les efforts réalisés par le gouvernement actuel pour ramener le déficit du budget de 6,1 à 5%, mais on est toujours en déficit. Excusez-moi d'être un peu économiste, mais vous voyez, on est très loin du compte, hein.
Alors, 3,48% des maires sont en situation d'épuisement sévère, proche du burn-out. Alors, vous notez que ce résultat, il est proche de celui des dirigeants de PME sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Justement, qu'est-ce qui les lie, ces dirigeants de PME et les maires ? Qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces situations ? Qu'est-ce que vous retrouvez ?
Eh bien, finalement, on peut voir, d'ailleurs, certaines études montrent que le maire peut être vu et pris comme un entrepreneur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de points similaires. Alors, il va y avoir tout ce qui est patrimoine qui va être la différence, hein, parce que ça va être des personnes qui ne vont pas avoir un patrimoine à gérer. Mais malgré tout, ce sont des hommes de projet. Et les entrepreneurs, bah, c'est le projet aussi qui impacte. Et c'est ce point-là qui va être très important. Et donc, du coup, on peut les comparer aussi là-dessus. Ça va être aussi des personnes qui vont travailler beaucoup, des personnes qui vont probablement, alors on n'a pas encore réellement testé, mais avoir des problèmes au niveau de la gestion des domaines de vie, parce qu'ils vont être fortement impactés par leur travail. C'est des personnes qui vont être extrêmement impactées par ce qu'ils font dans leur travail, et c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, la thèse d'Olivier Torres, c'est l'existentialisme chez les entrepreneurs. Et là, on retrouve, alors, pas exactement la même chose, mais en tout cas, une volonté d'être fortement impacté et penser énormément à leur travail et à leur fonction d'élu.
Oui, peut-être pour rajouter, la psychologie qu'on a utilisée pour comprendre ces hommes et ces femmes, c'est la psychologie vocationnelle. Ils ont le sens de la vocation, d'où la question du sacerdoce et du sacrifice. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison de dire que la vie d'un maire est extrêmement riche. J'ai adoré votre introduction, hein, où vous montrez, et vous savez, quelque chose de plus dramatique, quand on appelle un maire pour annoncer à une famille le décès d'un jeune sur la route, parce que c'est au maire qu'on le demande. Quand on appelle un maire à 4 heures du matin parce qu'il y a un animal qui divague quelque part, c'est le maire qu'on appelle. Et c'est vrai que, personnellement, moi, ce que j'ai découvert, c'est que ces hommes et ces femmes sont des grands serviteurs, en vérité. Parfois, on les critique, mais ce sont des grands serviteurs de quelque chose qui est quand même sacré, qui est un sacré laïc, c'est la République. Et ça mérite d'être souligné, et c'est ce que révèle aussi notre étude.
Alors, vous avez mis au point un dispositif de santé mentale, donc pour tous les maires, avec un système de dépistage du risque de burn-out que vous venez de déployer. Est-ce que, Mathieu Lemoyle, vous pourriez nous expliquer comment il fonctionne, ce système de dépistage ?
Oui. Alors, nous avons justement fait des catégorisations à travers les deux questionnaires que nous avons fait passer. Et à travers ces questionnaires, bah, du coup, on a pu faire des catégorisations de stresseurs et de satisfacteurs. Donc, le dispositif va évaluer, finalement, quels sont les stresseurs qu'ils ont dans leur vécu de maire et quels sont leurs satisfacteurs. À travers ça, il va y avoir une balance qui va se créer. Donc, s'ils ont plutôt une balance négative parce qu'ils vont vivre plus d'événements stressants que des événements satisfaisants, alors ils vont passer à l'étape suivante, qui est le test de dépistage du burn-out. Et donc là, à travers justement les 10 items, les 10 questions qu'on a pu voir tout à l'heure sur le BMS, eh bien, ils vont s'auto-évaluer. Et en fonction de leur niveau d'épuisement, si le niveau est supérieur à 4, alors on va déclencher un questionnaire final pour justement pouvoir s'auto-évaluer et vérifier.
Déclenchement d'alerte. Voilà, c'est un déclenchement d'alerte. Alors, nous l'avons testé. Et grâce à deux associations, l'AMF 34, j'ai participé au Salon des maires le 27 septembre dernier à Béziers, avec Frédéric Roig, que je salue, et également à l'Assemblée générale de l'AMRF, au niveau national, c'était à Saint-Julien-Bourgogne. Aujourd'hui, je peux vous dire que 108 maires ont testé cette évaluation, 18 ont fait un dépistage de burn-out et on a eu 3 déclenchements d'alerte. Toute la question pour nous, parce qu'on n'avait pas la réponse, c'est sur ces 3 mains tendues, combien ont été saisies ? Parce qu'une main saisie vaut mieux qu'une main tendue. 2. Donc, ça marche.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. En un mot, est-ce que c'est le nouveau défi de la République, ou en tout cas le défi de la République, d'assurer la santé mentale et le bien-être des maires ?
Eh bien oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui avait été dit par le... Mais oui, en tout cas, c'est quelque chose qui est important et qui est novateur finalement, parce qu'on a peu étudié, voire pas étudié la santé des maires, et donc c'est important d'y aller.
Je le dirai en un mot, une République mature doit protéger ses plus grands serviteurs.
Merci Olivier Torres. Merci à tous les deux et merci beaucoup pour cette étude. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline, où nous emmènes-tu ?
Eh bien, on retourne au laboratoire de mesures physiques pour visiter la salle d'analyse élémentaire. C'est une technique qui permet de déterminer le pourcentage de carbone, d'hydrogène, d'azote, de soufre et d'oxygène dans les composés organiques. Et Magali Lefeuvre, qui nous fait visiter la salle, y analyse des échantillons parfois surprenants de plantes, huile, soupe, cacao, œufs de poisson, pneus et même tissus de housse de lit d'hôpital.
Bonjour, je suis Magali Lefeuvre. Je suis assistante d'ingénieur au LMP. Je suis responsable du service analyse élémentaire. Donc, l'analyse élémentaire sert à calculer le pourcentage en masse du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du soufre et de l'oxygène. Donc, j'ai deux analyseurs, un qui fait le CHNS, alors le C du carbone, le H de l'hydrogène, le N de l'azote et le S du soufre. Voilà. Et il y a un autre appareil qui est dédié à l'oxygène, donc le O.
Ce premier dont vous parlez, qui fait justement le CHNS, moi, en face de moi, j'ai un cube rouge de à peu près 60 cm par 60 cm. Comment ça marche, cette machine ?
Alors, il y a un passeur avec deux tubes, un tube de combustion, un tube de réduction et une colonne de chromato.
Qu'est-ce qu'on met dans ces tubes ?
Donc, dans ce tube, on met des petites nacelles, toutes petites. Donc, elle doit mesurer 2-3 mm. Ouais, elle est 5 mm à peu près. Donc je pèse les produits grâce à une balance et l'échantillon est injecté en fait dans l'appareil.
Et c'est quel type d'échantillon que vous mettez dedans ? Parce que c'est des tout petits tubes, il y en a beaucoup, mais c'est des petits emplacements.
Voilà, donc j'analyse des produits de fin de synthèse pour avoir la pureté de l'échantillon. Ou comme ceux-là aussi, par exemple, c'est des noyaux broyés. Je peux avoir des poissons aussi broyés. Je peux analyser toutes sortes de choses, de la pâte à tartiner, du cacao, du café. C'est vraiment, j'ai un panel extraordinaire en fait, d'échantillons.
On peut en mettre combien d'échantillons dans cette machine ?
Alors, c'est en fonction de la pesée de la journée. Donc c'est un passeur de 120 échantillons. Mais on peut aller beaucoup plus si on veut. Il tourne de jour et nuit, l'appareil.
Et donc là, vous mettez dans les emplacements la pâte à tartiner ou le poisson broyé. Et comment de là, la machine, elle peut vous dire ce qu'il y a comme carbone ?
Grâce à la chromato, j'arrive à voir un joli spectre où on voit bien le pic d'azote, de carbone, d'hydrogène et de soufre. Voilà.
Et ça, vous le visualisez sur l'ordinateur ? On peut en regarder une ?
Donc on visualise très bien là, l'azote, le carbone, l'hydrogène et le soufre.
Et à quoi ça sert de savoir ce qu'il y a comme carbone dans de la pâte à tartiner, par exemple ?
Eh bien, je ne sais pas, parce que c'est pour... Les personnes demandent, donc des fois j'ai du retour, des fois Je n'ai pas de retour. Donc,
ils
ne
vous disent pas forcément.
Non, là c'est une société privée, donc ils me donnent leur échantillon, mais je n'ai pas de retour pour à quoi ça sert. Voilà.
Donc la plateforme, elle n'est pas ouverte juste aux chercheurs, c'est les industriels, ils peuvent aussi demander des analyses.
Oui, en effet, donc je travaille pour les CGM, l'IBMM, pour les UMR de l'Université de Montpellier et également pour des sociétés privées.
Et alors, ça, c'est pour CHNS, comme on a dit. Vous m'avez dit que c'était un autre appareil pour l'oxygène.
Alors, la différence, c'est que pour le CHNS, pour analyser, il faut de l'oxygène qui arrive pour brûler l'échantillon. Et par contre, pour calculer le pourcentage d'oxygène, là, on ne peut pas utiliser le gaz vecteur d'oxygène. Donc, ça se fait par pyrolyse. Donc ici, il n'y a qu'un seul tube. Donc, c'est deux méthodes. Ici, il y a un tube de pyrolyse. Et ici, il y a deux tubes. Un de réduction et un de combustion. C'est des techniques qui se ressemblent, mais elles sont quand même différentes en fonction des éléments qu'on veut utiliser.
Et alors, je vois que vous avez aussi une paillasse sous une hotte. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour
alors,
préparer...
C'est une hotte de pesée qui ne sert à peser que les solides. Et donc, c'est une balance très rare. Elle est à 10-7.
En précision, c'est-à-dire ?
En précision, à 10-7. Donc, il y a 7 chiffres après la virgule.
Ah, d'accord. Donc, c'est la pesée la plus précise possible ?
Oui, je pense, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'en existe pas beaucoup en France, mais nous sommes bien équipés ici.
Des balances comme ça, il n'y en a pas beaucoup à l'université ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que la personne qui me l'a installée, c'était pour lui la première sur le secteur de Montpellier. Donc, je pense que oui, il n'y en a pas beaucoup ici.
Et là, je vois que vous avez plein de petits tubes avec de la poudre noire à l'intérieur, sous la hotte. Ça, c'est quoi qu'il y a dedans?
Alors, c'est des noirs de carbone qu'ils appellent, mais j'ai demandé à la personne, elle m'a dit que c'était donc des noyaux qu'ils avaient brûlés, donc d'olivier, d'abricot, d'un peu de tout, voilà. C'est des personnes qui travaillent sur les sols dans les vignes.
C'est quoi, par exemple, l'échantillon le plus improbable que vous ayez eu à analyser?
Le plus improbable, je dirais que c'est des tissus qui recouvrent les lits d'hôpital. Voilà, on m'a demandé, je ne sais pas pourquoi, une société m'a demandé, c'était du plastique, mais qui recouvre les lits des hôpitaux. Je ne sais pas à quoi ça leur a servi.
Ils voulaient savoir ce qu'il y avait comme...
Comme élément, en fait, du CHNSO, mais je n'ai pas eu de retour, malheureusement, après.
Et j'accueille maintenant un habitué, Thomas Pichéry, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toujours chargé de communication au développement durable et à la culture scientifique, et vous nous parlez donc aujourd'hui d'un bar des sciences qui aura lieu ce jeudi. Alors, on connaît depuis 20 ans le bar des sciences de janvier à juin. Quelle est donc cette folie?
Alors, cette folie, elle nous vient de la fête de la science et de la programmation culturelle eau. Alors on parle du liquide, pas de la hauteur. Et du coup, elle a son lot d'animations, de conférences autour de, vous l'aurez deviné, la science et l'eau. Et on s'est dit, à l'université, pourquoi ne pas faire un bar des sciences hors série sur cette thématique?
C'est complètement fou. Alors le thème choisi est justement l'eau, source de vie pour l'homme, source d'inégalité pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu de quoi il sera question, même si le titre est assez explicite?
Alors, il sera question de l'eau comme, d'une part, une ressource, notamment avec sa rareté dans certains pays, ou encore sa maîtrise par l'humain, avec tout ce qui est hydraulique. Ensuite, la seconde dimension abordée, ça sera la place des femmes dans l'ingénierie hydraulique en France.
Alors, comme d'habitude, j'imagine qu'il y a des intervenants, on ne change pas la formule, on change la saison. Mais donc, qui vont être les intervenants pour ce bar des sciences?
Alors, je me permets de vous corriger, il s'agit d'intervenantes. Quoi de mieux qu'une programmation 100% féminine pour discuter de la dimension sociale et genrée autour de l'eau?
J'adore ce genre de contradiction.
Nous avons donc Marion Derocher, ingénieure polytech à Montpellier. Elle gère des projets interdisciplinaires à travers le monde. Et elle possède de larges connaissances dans tout ce qui est système de distribution d'eau, modèles liés aux orages et aux eaux usées. La seconde intervenante, il s'agit de Anne Madziarski, responsable du service autorité organisatrice de l'eau au sein du pôle déchets et cycle de l'eau de la métropole de Montpellier. C'est par ce service que la métropole garantit la distribution d'eau potable à ses citoyens, ainsi que son assainissement. Ensuite, nous avons Clémence de Croc, chargée de projet au centre UNESCO IC Reward. Elle pilote un projet de redynamisation du réseau des chaires UNESCO, travaillant sur les thématiques de l'eau et des femmes.
Alors, ça nous fait donc trois.
Voilà. Une chaire, c'est un projet et une équipe dans une université dont l'objectif, c'est de faire progresser les connaissances et les pratiques dans un domaine. Et enfin, la
une
dernière
quatrième,
intervenante,
ouais.
Voilà. C'est Julie Mandré, maître de conférence, habilité à diriger des recherches et membre junior de l'Institut universitaire de France, institut qui est un ensemble d'enseignants-chercheurs sélectionnés par un jury international pour la qualité exceptionnelle de leurs recherches.
Alors, le bar des sciences, on le sait, ce n'est pas une conférence, Agnès, si tu m'écoutes. C'est un débat, un dialogue avec la salle. La formule n'a pas changé?
La formule reste la même, des sujets abordés, des questionnements évoqués, un dialogue qui s'installe et la connaissance qui s'infuse. C'est une formule qui fonctionne, mais c'est surtout une formule qui rend la science et les experts accessibles. C'est ça la force du bar des sciences.
Merci beaucoup Thomas. On rappelle donc, c'est ce jeudi à 20h. Et c'est toujours à la brasserie Le Dôme?
Non, c'est à la médiathèque Émile Zola.
Ok, très bien, à la médiathèque Émile Zola. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.